Écoute.
Écoute.
Émancipé.
Émancipé.
Le podcast de l'école émancipée.
Féminisme et syndicalisme volet 2. Quelle place pour les femmes dans la FSU et ses syndicats ? Bonjour à toutes et à tous. Dans le dernier épisode d'Écoute émancipée, nous avions insisté sur l'évolution des revendications syndicales et sur la prise en compte des spécificités liées au travail des femmes. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur ce qui se passe à l'intérieur des syndicats, plus particulièrement à l'intérieur de la FSU et de ses syndicats. Quel travail féministe ? Quelle structure pour le faire ? Nous avons interrogé deux militantes d'un secteur femmes syndicales, Stéphanie Geoffroy Lemoine et Audrey Walid. Et par ailleurs, Valérie Soumaille, de la cellule de veille de la FSU contre les violences sexistes et sexuelles. Bonne écoute.
Oui, c'est non.
Oui,
c'est non. Qui va faire la vaisselle, nous on fait la révolution. Qui va faire la vaisselle, nous on fait la...
Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te revoir d'abord.
Bonjour Elisabeth.
Je vais te présenter rapidement parce que je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que tu étais dans le précédent podcast sur syndicalisme et féminisme. Donc tu es une militante syndicale et féministe dans une organisation de la FSU qui est la FSU Emploi. Une des raisons qui t'a fait adhérer à ce syndicat, c'est le secteur femmes, l'existence du secteur femmes. Et tu participes donc à ce secteur. Et donc, les questions que je voudrais te poser sont sur l'organisation de ce secteur et la manière dont ça se passe pour les femmes à l'intérieur de ton syndicat. Alors d'abord, le secteur femmes, qu'est-ce que c'est chez vous ?
Je vais reprendre, Elisabeth, sur le début, le pourquoi, effectivement, j'ai pu adhérer à la FSU Emploi qui s'appelait le SNU Pôle Emploi. C'est parce que on est l'un des seuls syndicats à France Travail à avoir un secteur femmes. Donc ça, c'était vraiment important de lutter, puisque militante aussi féministe, de lutter aussi à l'intérieur de mon organisation syndicale pour les droits des femmes. Donc je vais reprendre donc le secteur femmes. Donc on lutte pour le droit des femmes. Et principalement aussi pour les inégalités salariales et la promotion aussi des femmes, puisque nous sommes 80% de femmes à France Travail et qu'il y a toujours des inégalités salariales. On soutient aussi les femmes en fait à l'international, les femmes afghanes, iraniennes, états-uniennes, polonaises. Et donc ça se passe comment ? Donc on se réunit en fait en non-mixité. une fois par trimestre. On se voit voilà, de temps en temps un peu à la marge et on se réunit en non-mixité. Alors, la non-mixité, c'est… je vais faire une petite parenthèse parce que souvent, en fait, dans mon syndicat, les hommes disent « Ouais, mais pourquoi vous êtes en non-mixité ?» Déjà, ils ont un peu de mal à comprendre. Et puis, bah, nous aussi, on n'a qu'à créer un secteur homme hein, puisqu'il y a un secteur femme. Malgré tout le travail qu'on fait dans notre organisation syndicale hein, pour expliquer, pour déconstruire le patriarcat, ben, tu vois que ce n'est pas encore gagné, Elisabeth, hein, de faire comprendre que cet entre-soi, ce n'est pas exclure, ce n'est pas mettre, c'est pas être anti-homme, c'est vraiment une forme de travail contre les inégalités et contre les rapports de domination, comme ce qui s'est fait aussi dans les années 70 au sein du MLF, d'être dans cet entre-soi. Donc, on sait bien qu'effectivement, le syndicalisme, historiquement, en fait, il a été construit par des hommes et pour des hommes, pour les ouvriers au départ, 19e et 20e. Et les mouvements, en fait, je vais revenir aussi un peu sur les mouvements des femmes ouvrières qui ont existé, mais qui sont invisibilisées. Et si depuis les années 70, la question des femmes, elle fait partie intégrante hein, des préoccupations syndicales, malgré tout, il est difficile de faire entendre notre voix sur les questions féministes et sur nos revendications, qui peuvent paraître souvent secondaires, voire même inutiles. Hein. Donc cette non-mixité, en fait, elle semble parfois remise en question par certains hommes, et voire aussi par certaines femmes. Voilà, je voulais vraiment venir sur la question de la non-mixité.
C'est très important, cette question de non-mixité. C'est bien, je te remercie d'avoir refait un point clair dessus, parce que je crois que c'est vraiment important de le dire et de le redire, que la non-mixité, c'est pas on ne veut pas travailler avec les hommes, c'est on a besoin d'un entre-soi à un moment pour poser les choses, pour être capable d'élaborer sans forcément avoir des hommes avec nous, ce qui n'empêche pas d'ailleurs un militantisme commun, y compris sur les questions femmes par la suite. Et ça me fait rebondir sur deux choses, peut-être que je reviendrai au secteur après, mais pour l'instant, ça me fait rebondir sur deux choses qui sont la parité dans ton syndicat, puisque au niveau de la FSU, on a fait passer des règles concernant la parité, et il ne peut pas y avoir à la FSU une majorité d'hommes dans les instances du syndicat, il faut qu'il y ait au moins 50% de femmes, et dans les différents syndicats, c'est au moins 50% de femmes, sauf s'il y a deux tiers d'hommes, c'est-à-dire ça dépend évidemment de la répartition des hommes aussi. Et puis sur le temps de parole, on sait que les hommes prennent plus volontiers la parole, hein, qu'ils parlent plus longtemps. Je voudrais savoir comment ça se règle chez vous, ces choses-là.
Concernant la parité, on y est, mais il faut savoir aussi qu'on est quand même 80% de femmes. Il n'y a pas 80% de femmes au syndicat, mais à la parité, nous sommes à la parité. Effectivement, par exemple, pour rentrer au bureau du national, eh ben, s'il y a plus d'hommes, il faut vraiment qu'il y ait une femme qui rentre pour qu'il y ait un homme qui puisse rentrer. Donc, il y a vraiment la parité au niveau du national.
Ça fait très longtemps, il me semble bien plus longtemps que la FSU, que vous avez imposé ces règles-là et que si une femme s'en va et qu'il n'y a pas de femme pour prendre la place, le siège reste vacant. Il n'y a pas un homme qui prend cette place-là.
Un homme ne peut pas rentrer. Il faut qu'une femme rentre, tout à fait. Ouais. Concernant les régions, donc j'avais fait tout un travail dessus sur la parité. Ça dépend des régions. Il y a des régions où il n'y a que des femmes. Il y a des régions où il y a plus d'hommes et c'est compliqué d'avoir aussi des femmes, de passer de l'adhérente à la militante. Et ça, mais on se pose la question de comment aussi faire rentrer plus de femmes et des militantes pour qu'elles puissent, enfin des adhérentes pardon, pour qu'elles puissent devenir militantes. Alors au niveau donc ça va être l'organisation du travail. Par exemple, quand faut venir à Paris, eh ben on va laisser plus de temps. Les réunions vont commencer plus tard pour que les femmes puissent prendre plus de temps, de déposer leurs enfants, de faire le voyage aussi, pour justement permettre d'intégrer en fait l'organisation syndicale. Au niveau de la prise de parole, ben on utilise le principe de la fermeture éclair, je pense que tu connais. Effectivement, c'est que ce que tu disais hein, dans les assemblées, ben, les hommes ils ont tendance à prendre plus la parole, plus longtemps, et à répéter aussi hein, ce qui a été déjà dit. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et les femmes, hein, on a plus tendance, elles ont plus tendance à tarder, en fait, à demander la prise de parole. Donc, en fait, on note en fait toutes les prises de parole, elles sont notées. Et si à un moment donné, une femme va demander la parole, même s'il y a plusieurs hommes sur la liste, et ben c'est la femme qui est prioritaire dans sa prise de parole. Ça permet ainsi qu'il y ait une alternance en fait de prise de parole entre les femmes et les hommes.
Oui, ça permet parce que j'ai le souvenir, ayant été au BDFN de la FSU à une époque, j'ai le souvenir d'avoir pratiqué cette fermeture éclair parce que justement, le président de séance ce jour-là était quelqu'un, alors je ne sais pas quel était le nom de l'époque, SNUTEFI, FSU Pôle emploi, enfin je ne sais pas, ce n'est pas très grave, mais c'était le même syndicat et il avait proposé cette organisation de la prise de parole. Et ce qui m'avait frappé, c'était que la conséquence, c'était que les hommes s'inscrivaient moins, mais aussi que les femmes s'inscrivaient plus. C'était une manière de donner confiance aux femmes aussi. Vous ressentez ça ?
Alors, je ne sais pas si les hommes s'inscrivent moins, mais en tout cas, ça permet justement aux femmes de prendre, effectivement, de prendre la parole.
D'accord. Et tu sens des progrès à cet égard dans ton organisation ?
C'est quelque chose de systématique et quand parfois on peut, si à la tribune, quelqu'un peut oublier, les hommes même peuvent dire « ouais mais non, là maintenant, enfin c'est pas moi, d'accord. Il y a d'abord une femme, donc oui, je sens des améliorations par rapport à ça et ça devient systématique en fait. »
Et sur le temps de parole des interventions, c'est limité ?
Non, ce serait bien parfois que cela soit limité. Il faut que je refasse, là, je n'ai pas refait de chronométrie. Que voilà, c'est comme ça qu'on sait, il faut que je m'amuse à le refaire. Mais les hommes prennent effectivement, ils ont un temps de parole qui me semble plus important. Il faut que je le rechronomé. Enfin voilà, il faut que je refasse le travail.
D'accord. Je vais poser une dernière question. Donc, le secteur femmes, on en a parlé. Est-ce que vous faites des stages ? Est-ce que vous avez des publications spécifiques du secteur femmes de la FSU emploi ?
Alors, ça fait affaire depuis 2021 que nous organisons des formations syndicales, donc autour du 8 mars et puis du 25 novembre. Donc, c'est des formations en visio, qui permet en fait à toutes les régions et puis au Drôme de pouvoir s'inscrire. Donc, on est sur des thématiques sur les violences, effectivement, les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes et au travail. Sur les violences faites aux femmes, c'était intéressant parce que ça a été aussi de comment repérer et orienter les femmes qui sont victimes en fait de violences conjugales. Et quand on les a, quand nous sommes en entretien, voilà, ça permet aussi de repérer les violences conjugales, une femme qui ne vient pas à un rendez-vous une fois, puis deux fois, enfin plusieurs fois. Enfin voilà, c'était comment repérer tout ça, comment repérer les violences conjugales. Donc on fait aussi des formations sur la démasculinisation de la langue avec Eliane Viennot qui est venue. Là, il y a encore du travail à faire hein, sur la langue, sur notre acte. L'année dernière, ça a été sur la santé des femmes. Et puis cette année, le 11 mars, je suis contente, on a Suzy Rojman qui vient. Suzy Rojman, sur la lutte des femmes et lutte des classes. Et puis, on a une historienne aussi, Christine Barbe, qui vient sur l'histoire des féminismes et de l'antiféminisme. Donc, on fait régulièrement en fait des formations au niveau du national. Et puis après, il faut savoir que ça se décline au niveau des régions, puisque les régions, certaines régions ont des secteurs femmes. Et là, à ce moment-là, elles peuvent déployer, elles aussi, les régions, des formations féministes dans leur région. On fait régulièrement oui, des tracts. On a dans notre journal syndical qui s'appelle le MDE, le mode d'emploi, une double page en fait féministe où là nous écrivons en fait des articles qui sont liés toujours à l'actualité féministe. On a mis en place aussi le violentomètre sur les violences faites aux femmes qu'on distribue régulièrement quand nous allons faire des visites d'agence. C'est un bon outil auprès des collègues de parler des violences conjugales et des violences faites au travail aussi. Dernièrement, je voulais parler de ce qu'on va porter aussi là prochainement sur notre accord égalité. On va porter le congé hormonal. Donc, on est parti au début, nous, sur un débat sur le congé menstruel. Et puis, à force de débat avec les régions, ça va être un congé hormonal. Donc, avec la prise en compte, en fait, au long de la vie des femmes, des changements hormonaux, Donc les règles, la préménopause, la ménopause, et on va demander là nos revendications auprès de l'employeur, c'est d'obtenir un congé hormonal à la hauteur de 20 jours, sans délai de prévenance et sans jour de carence.
J'ai envie de dire que la FSU emploi, c'est un exemple à suivre quand même sur la question du féminisme et de la place des femmes. Il me semble qu'un certain nombre de syndicats de la FSU feraient bien de regarder un peu ce qui se passe dans votre syndicat et voir que ça marche en fait, ça fonctionne et que c'est utile. Et puis je te remercie.
Je te remercie Elisabeth. Alors je te remercie de dire que ça peut être un modèle. Cependant, je voulais rajouter qu'il faut continuer aussi à se battre à l'intérieur de notre syndicat pour permettre que nos revendications, elles continuent d'exister et que ce ne soit pas juste des revendications du type, comme je disais tout à l'heure, inutile, qu'on passe à la fin d'un ordre du jour à 17h où il n'y a plus personne. Voilà. Donc, il faut vraiment continuer à se battre, nous, à l'intérieur aussi de notre OS.
D'accord. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis, à bientôt.
Je te remercie, Elisabeth. À bientôt.
On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Les femmes sont mal payées, les femmes sont exploitées, toujours les premières de corvée.
Des femmes honorons la mémoire bafouée, lésée, enterrées par l'histoire au Panthéon. On veut les faire entrer, stop à l'invisibilité. Les femmes, si c'est LGBT, tout est sorcière. Vive la diversité, ensemble et fiers. Rien pour nous arrêter. Allez, on crie sororité. On se lève, on se casse, on stoppe le patriarcat. On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Les femmes sont malmenées, les femmes sont violentées. Culture du viol organisé. On sait, on se casse, on stoppe le patriarcat. On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Les femmes sont mal payées, les femmes sont exploitées. Toujours les premières de corvée. On sait, on se casse, on stoppe le patriarcat. On prend le pouvoir et on se bat pour nos droits. Femmes du monde entier, on n'a pas ça.
Bonjour Audrey. Alors, je te remercie d'abord d'avoir bien voulu participer à cette émission d'écoute émancipée sur la façon dont la question femme se pose à l'intérieur des syndicats et non plus vers l'extérieur des syndicats cette fois-ci. Je te présente, tu es prof de français dans un lycée de Seine-Saint-Denis, mais en l'occurrence c'est plutôt en qualité de militante que je vais te poser quelques questions. Tu es militante au SNES Créteil, tu es à l'école émancipée. Tu es une des femmes à l'origine du premier secteur femme du SNES. Alors premier secteur femme du SNES Créteil, premier et peut-être seul, on va y revenir, secteur femme à l'intérieur du syndicat du second degré de la FSU. Quelles sont les réticences au SNES sur la question d'existence de secteur femme ?
Alors attends, parce que je reviens sur deux choses. Je ne suis pas à l'origine, mais j'ai rejoint l'équipe qui, enfin les femmes qui se sont lancées dans l'organisation de ce secteur très vite. Et il y a des secteurs femmes qui se sont montés très récemment, il me semble, à Aix-Marseille. On va revenir sur les réticences et ça en fait partie, c'est-à-dire qu'au niveau du SNES national, il n'y a pas un secteur femme parce que, oh là là, ça fait vraiment trop militante féministe, mais il y a un secteur égalité professionnelle. Déjà, au départ, c'était égalité femmes-hommes et bon, on a quand même dit que c'était pas top. Oh, peut-être que c'est l'inverse d'ailleurs, enfin dans tous les cas, c'est pas top que ce soit égalité professionnelle ou égalité homme-femme ou femme-homme, parce qu'en fait ça limite plein de choses. Les réticences, on a moins déjà au SNES Créteil qu'il y en a eu il y a quelques années, ou alors en tout cas les personnes qui les éprouvent ne les formulent plus telles qu'elles les formulaient il y a quelques années. Et après, au sein du syndicat, bah, tu sais, c'est un peu l'argument qu'on sort à chaque fois qu'il y a un groupe tel que celui-ci qui se monte, c'est qu'en gros, bah, enfin, déjà, pourquoi la question se poserait au sein d'un syndicat qui œuvre pour la transformation sociale. En gros, nos mandats nous permettent de lutter contre ça. Il n'y a pas besoin de créer un secteur dédié. Bon, évidemment, c'est faux, hein, mais il y a ce truc-là. Et puis, enfin, il y a quand même des gens qui ne voient pas pourquoi les questions se posent. Ce qui est un peu embêtant de la part de militants et de militantes aussi. Mais en gros, ça dépasse les questions corpo et donc ça n'intéresserait pas notre syndicat. Enfin, il y a eu ce genre de choses et après ça s'est exprimé sur des questions précises qu'on soulevait, à savoir par exemple l'écriture inclusive. Donc on a eu droit à tous les arguments habituels des gens qui sont contre ça, c'est illisible, c'est moche, enfin des trucs vraiment assez vite contestable. Hein. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. La non-mixité, on y reviendra sans doute, mais pareil, en gros, il y a quand même une certaine défiance parce que c'est vraiment l'idée que les femmes comploteraient. Ils ne le disent jamais tel quel, mais il y a cette idée que les femmes comploteraient. Alors je sais pas ce qu'on pourrait faire, hein, un putsch, je sais pas quoi. Donc il a fallu montrer patte blanche, notamment avec un argument avec lequel je suis assez en désaccord, mais en tout cas, en partie, c'est le côté... c'est un secteur qu'on fait pour les femmes et pas contre les hommes. Et en fait, je suis pas totalement d'accord avec ça. Évidemment, pour les femmes, ça c'est clair. Et après, alors, contre les hommes, évidemment, c'est l'argument qu'on nous avait sorti, donc on le démontait en disant non, c'est pas contre les hommes, mais en fait, c'est contre une domination patriarcale qui s'exerce au sein du syndicat et qui se manifeste de différentes manières...
Oui, justement, à cet égard, est-ce qu'aujourd'hui, et en particulier statutairement, SNES reconnaît qu'il puisse y avoir une discrimination dans le syndicat à l'égard des femmes ?
Alors, c'est moins compliqué que d'autres discriminations, mais de toute façon, dès que tu dis que voilà, il y a du sexisme, en fait, les gens tombent des nues, tu vois. Ah non, mais il n'y a pas de sexisme au SNES, alors que bon, tu viens d'entendre un truc horrible à côté de la machine à café, mais bon, ok, il n'y a pas de sexisme au SNES. En fait... Je trouve que c'est peut-être moins ouvert qu'il y a quelques années, mais tu sens bien que y a encore, et ça je parle plus au niveau national qu'à Créteil, hein, des personnes qui pensent clairement que bah, les femmes, en fait, elles sont mieux à l'organisation que dans la représentation, ou qu'elles sont mieux dans des questions qui sont pas des questions vraiment d'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, l'emploi, c'est un peu... C'est comme l'international, quoi, ou droit et liberté. Enfin, il y a quelques femmes un peu exceptionnelles, mais la masse, bof, en fait, on va se méfier des militantes qui pourraient exprimer des velléités à militer dans un secteur un peu... avec du pouvoir, en fait.
Comme me disait un de mes élèves, il n'y a pas d'inégalité entre les genres. Chacun est à la place qui lui convient le mieux, les femmes comme secrétaires et les hommes comme dirigeants.
Bah, je pense qu'il n'y a pas que ton élève hein, qui pense ça, et même chez des profs, donc, cette idée-là, elle circule, quoi.
À quoi ça sert un secteur femme, en fait, dans le syndicat ? Quel type de travail est-ce que vous faites ?
C'est assez varié, mais c'est toujours la question de qui prend... Enfin, les personnes concernées par quelque chose sont les mieux placées pour s'en occuper. Et donc, on a fait quand même pas mal de choses. Alors, il y a eu évidemment la volonté de faire des modifications statutaires au sein du SNES. Il y a eu une publication qui me semble assez importante qu'on avait intitulée « Grossesse et parentalité » parce qu'en fait... Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux militants et militantes de la part de collègues qui sont enceintes, qui sont dans une démarche de PMA ou plein d'autres choses qui ont trait à la grossesse et à la parentalité. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément hyper outillés, donc on a pris beaucoup de temps à faire cette publication qui est maintenant sur le site du SNES Créteil. Il y a eu la volonté aussi de modifier, alors ça il y a encore énormément de travail il me semble, mais de modifier un peu notre manière de militer. Donc ça a été la proposition de prendre en charge les frais de garde, le travail sur la répartition de la parole, savoir qui parle le plus. Bon, aucune surprise, hein, c'était les hommes qui parlaient le plus, mais maintenant ils sont minutés. Qui intervient le plus, pareil, tu peux parler deux minutes, mais si tu reviens quatre fois dans la réunion à lever la main, il y a un moment, voilà. On a travaillé aussi sur un protocole de mise en place d'une cellule de veille interne au SNES FSU Créteil et on organise des stages qui ont pas mal de succès sur... Alors on avait fait Femmes en lutte autour de la question des femmes et du syndicalisme. Là, il y a bientôt un stage qui va s'articuler autour de la question de la santé des femmes. Il y a eu un stage sur les violences à l'égard des enfants. parce que ça nous semblait important en tant qu'enseignants et enseignantes, enfin enseignantes du coup, parce que on est essentiellement des femmes à travailler dans ce secteur, même si officiellement il est mixte. Mais donc ça a été assez varié, et c'est vraiment l'idée que, en fait, il y a des questions, les mecs ils vont pas savoir vraiment les traiter, quoi. Enfin, des trucs tout bêtes, mais là on avait réfléchi à la question du congé menstruel. Bon, je ne doute pas que les hommes aient des avis très tranchés sur la question du congé menstruel, mais c'était intéressant qu'on en parle ensemble pour voir tout ce que ça soulevait en fait comme question, et pas simplement de « Ah, mais les femmes, en fait, si elles ont ça, elles vont jamais travailler », de la part d'un mec qui marche sur un Lego et qui s'en plaint toute la journée, tu vois. Donc il y a pas mal de chantiers comme ça qui nous semblaient devoir être traités par des personnes, les personnes les mieux placées pour le faire.
Alors, pour revenir sur d'abord la question des revendications spécifiques aux femmes, et je pense par exemple au congé menstruel, dans la discussion que j'ai eue avec la camarade de la FSU Théos ou FSU Emploi, elle m'a expliqué justement que ce congé menstruel était porté par son syndicat.
Par la FSU, ouais. Mais en fait, nous, on voulait y réfléchir aussi pour communiquer vis-à-vis des collègues et savoir ce qu'on en pensait. Donc on avait repris évidemment les arguments qui étaient tenus par d'autres syndicats, notamment la CGT, les réflexions aussi par des syndicats de la FSU. Mais c'est vrai que c'était une question en fait qu'on s'est posée assez tardivement, qu'on s'est posée l'année dernière, notamment au moment de notre congrès, pour savoir si c'était quelque chose qu'on portait et si oui, c'est surtout ça en fait, quelles étaient les modalités qu'on allait revendiquer. Et donc, c'est passé dans les textes de Créteil.
Est-ce que c'est passé dans les textes nationaux ?
Je crois pas, mais là, pour le coup, je suis pas certaine. C'est possible que ça a été formulé sous un autre intitulé que congé menstruel, en fait. Ça, je me demande si c'est pas ça qui a été passé, mais autant te dire que les congrès, j'ai du mal à tout retenir, quoi, parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses.
Sur la nécessité du secteur femmes, est-ce que vous n'avez pas peur que ça aboutisse au fait que les revendications féminines et féministes, en sachant que ça n'est pas exactement la même chose, ça n'est pas du tout la même chose d'ailleurs, que ces revendications féminines et féministes ne soient portées que par les femmes dans le syndicat ?
Alors, déjà j'aime bien la distinction féminine et féministe, sachant que l'appellation secteur femmes en fait me gêne un peu, mais j'arrive pas vraiment à savoir ce que je mettrais à la place, mais je le trouve trop large ou trop flou. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui me pose problème dans ce type de secteur. Est-ce que ce serait grave que les... Je sais pas. Je sais pas si c'est grave ou si...
C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les revendications, elles soient aussi prises en charge par l'ensemble du syndicat. Si on veut aboutir, en particulier sur les revendications qui concernent les enseignantes, puisqu'on tu es dans un syndicat d'enseignantes et de CPE. Si on veut aboutir, il faut que ces revendications soient prises en charge par l'ensemble du syndicat.
Ça, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit un problème que le fait que ça émane de femmes et de secteurs dits femmes, je ne suis pas certaine que ce soit pas pris en compte du tout par les autres membres du syndicat, ou enfin là quand même on a une secrétaire nationale alors je sais pas si Sophie Venetite se revendique comme féministe, mais qui est quand même assez sensible à ces questions. Clairement on a connu plus féministe évidemment, je pense, hein, mais elle me semble pas totalement se détourner de ces questions là. Après, il y aura toujours des oppositions, mais je pense pas... Enfin, de toute façon, nous, ce qu'on fait dans le secteur, généralement, c'est porté après par l'ensemble de notre académie. Bon, après, se pose la question de savoir comment est perçue notre académie au sein du SNES national. Mais je pense pas que ce soit un obstacle, en fait. Et vraiment, pour moi, c'est les personnes les mieux placées pour inventer de nouveaux mandats ou discuter de choses qui les concernent, c'est quand même les femmes, quoi.
Alors, ça m'amène aux réunions mixtes, non mixtes. Les réunions, elles sont... Le secteur, tu nous as dit qu'il n'était pas non mixte, hein, donc il est dans l'absolu mixte. Il est dans l'absolu mixte, dans le principe mixte, ou il est en réalité mixte ?
Alors, sur le principe, il est mixte. Il y a eu quelques réunions avec un militant, évidemment, qui occupe une fonction importante au sein du SNES Créteil. Et après, on a pris la décision que certaines réunions soient non mixtes. Parce qu'il y a besoin de discuter de choses aussi entre nous. Et en fait, généralement, je pense que c'est une réunion par an minimum officiellement non mixte. Après, non, clairement, mais c'est, en fait, ça rejoint un peu ta question de départ, hein, c'est, enfin, tout à l'heure, c'est en fait, il y a aussi la volonté que, bon, finalement, les mecs, tu vois, ça les intéresse pas des masses, quoi, et donc, on va les laisser faire dans leur coin, et après, comme on veut se montrer un peu progressiste, on va pas trop les dézinguer.
Oui, en même temps, le fait que ça n'intéresse pas forcément les hommes ne les empêche pas parfois d'être opposés à toute structure non mixte hein, et entraînant parfois avec eux d'ailleurs des femmes. Hein. Quelle est la réalité là ?
Ça a soulevé quelques oppositions, mais en fait, tu sais, bon, comme tu le sais, la particularité d'être à l'école émancipée, et donc il y a pas mal de choses qui m'échappent. Parce que c'est des choses qui se jouent entre tendances et moi je n'ai que quelques échos de ce qui se passe au sein de la tendance majoritaire et donc en fait les principales oppositions je ne les vois pas. J'entends hein, des choses mais c'est pas aussi frontal que parfois ouais clairement pendant le congrès où il a fallu aller défendre la non-mixité et clairement les arguments sont assez mal reçus ou en tout cas vraiment, c'est cette idée que c'est des féministes radicales qui veulent, je sais pas ce qu'on pourrait faire hein, de tellement horrible pour des militants et militantes du SNES au niveau national. Mais en fait, c'est pareil aussi, c'est-à-dire que les réticences, je les perçois que de très loin.
Bien sûr, oui, c'est le problème d'être dans une tendance minoritaire, alors qu'un certain nombre de débats, ou l'avantage, c'est pas des débats qu'on a dans l'école émancipée, c'est sûr. C'est des débats qui sont tranchés dans l'école émancipée depuis bien bien longtemps. Je voulais revenir sur la question de la prise de parole et des prises de parole. Donc à Créteil, tu as dit le temps de parole est limité pour les hommes à chacune de leurs interventions. Je sais pas si depuis il y a eu des statistiques menées sur les temps de parole des hommes et des femmes cumulés parce que tu peux limiter un homme, comme tu disais il peut prendre la parole plusieurs fois et puis s'il n'y a que des hommes qui prennent la parole bah, t'auras beau les limiter il y aura une parole masculine. Alors je sais pas si ces statistiques elles ont existé récemment. J'avais connu le système de la fermeture éclair donc une alternance entre hommes et femmes. C'est une question qui s'est posée au SNES hein.
Non, pas l'alternance. Après ça fait un moment qu'on n'a pas fait le calcul des temps de parole, mais alors, je connaissais pas l'expression de fermeture éclair, mais l'image est bien. Il n'y a pas de volonté fixe de faire une alternance. Après, c'est une chose sur laquelle on est quand même assez vigilant et vigilante. Bon, les femmes perçoivent très vite hein, quand il y a une succession d'hommes qui prennent la parole, et je pense qu'il y a quand même des hommes aussi, maintenant, qui font attention. Simplement, bah, tu vois, quand on s'inscrit au pendant les congrès, pour les prises de parole, on veille, je pense, et quelle que soit la tendance, à ce qui est aussi une représentativité à peu près paritaire. Même si moi, je suis assez méfiante à l'égard, tu vois, du côté un peu vitrine, quoi. Ah ouais, ouais, on est féministe parce qu'en fait, on a plein de femmes partout qui font plein de trucs, qui prennent la parole et tout. Et en fait, bon. Il y a d'autres modalités d'être un syndicat féministe que de mettre des femmes partout.
Mais justement, sur le plan de mettre des femmes partout, j'avais, il y a, je crois, 2 ans, fait des statistiques sur les femmes en fonction des responsabilités. C'est-à-dire le nombre de syndiqués et ES au SNES, le nombre de secrétaires de section d'établissement femmes, et forcément hommes, le nombre de membres de secrétaires départementaux, le nombre de secrétaires départementaux et départementales, et en montant jusqu'au secrétariat national. Vous avez ça pour Créteil ? Vous vous êtes posé la question de le faire ?
Pour Créteil, on fait attention, il me semble, au niveau des secteurs, à ce qui est à minima autant de femmes que d'hommes, sur les élus aussi.
Les élus, c'est une obligation légale. Hein. Ah, tu veux dire... Non, les élus, c'est une obligation statutaire. de toute façon maintenant.
Ouais, mais enfin, tu vois, je vois Unité Action, ils mettent quand même beaucoup, beaucoup de femmes sur leur liste. Plus que nous, en fait.
Oui.
Donc, ils dépassent le truc.
Ouais, c'est bien.
Ouais, mais justement, moi, il y a un truc qui me gêne là-dessus, quoi. C'est-à-dire que, il y a un moment, moi, je trouve que ça devrait s'accompagner d'une réflexion vraiment sur ce que c'est que militer et comment on fait en sorte de militer dans de bonnes conditions. Et je pense qu'on ne se pose pas assez la question.
Il y a quand même des progrès depuis que les secteurs femmes existent dans le syndicat.
Alors, il faut dire qu'on était quand même super à la bourre, il me semble, au SNES, sur ces questions-là. Et donc, c'est vrai qu'en 5-6 ans, il y a eu énormément de progrès. Il y a beaucoup de boulot. Il y a eu beaucoup de progrès. Et j'avoue que c'est une forme de soulagement au congrès d'être avec Créteil, où je me rends compte vraiment de tout le travail qui a été mené par des femmes, mais pas que, bon, surtout par des femmes quand même. Et nous aussi, il nous reste du boulot à Créteil, hein, mais waouh, je suis pas certaine que j'aurais poursuivi dans le militantisme syndical dans une autre dans une académie, je sais pas, je vais pas forcément balancer d'exemple, mais il y en a qui font clairement pas rêver, quoi.
Sur ce plan, certes, hein, sur ce plan, certes, sur d'autres plans aussi, d'ailleurs, hein.
Là, on parle évidemment des questions féminines et féministes. Mais tu sais qu'à Créteil, il y a aussi un groupe. Pour l'instant, c'est un groupe LGBTQIA+, qui s'est monté. Et ça, alors je suis de très très loin ce qu'ils et elles font. Et encore, c'est tout récent. Hein, donc, il y a un stage bientôt aussi qui a été organisé par les militants et militantes de ce secteur et qui a eu beaucoup de succès. Et on voit aussi le succès des stages, que ce sont des questions qui intéressent vraiment les collègues. Je dis pas que la classe exceptionnelle n'intéresse pas grand monde, mais ces questions-là, en fait, on vit avec, quoi. Et donc, c'est bien que ce soit pris en charge par le syndicat. Je pense qu'on peut faire des efforts aussi sur les questions d'antiracisme et d'antivalidisme dans notre syndicat. Et là, pour le coup, c'est à tous les échelons. Et après, là, il y a la question aussi, tu parlais du secteur femme et de ce qu'on y fait. Il y a aussi, et ça c'est un gros travail, et pour le coup, on est outillé, mais pas forcément par le syndicat, par d'autres organes dans lesquels on milite à côté, c'est la question de la prise en charge des violences sexistes et sexuelles sur nos collègues, en fait.
On vient d'entendre une chanson qui vient du Chili, qui dit en substance « Le violeur, c'est toi ». Et donc j'enchaîne avec ma troisième intervenante, qui est Valérie. Alors quelques mots d'abord, bonjour Valérie. Tu es une militante, tu es professeure d'éducation physique et sportive, donc de PS, dans un lycée à Poitiers. Tu es donc militante du SNEP, syndicat des professeurs d'éducation physique et sportive. Tu es à l'école émancipée et militante du SNEP, tu es forcément militante aussi de la FSU. Et en l'occurrence, tu es membre de la cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles à la FSU au titre de l'école émancipée. Alors, la première question que j'aurais à te poser, qui est une question évidente, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cellule de veille et depuis quand est-ce qu'il y en a dans la FSU ? Dans les syndicats de la FSU, pas forcément à la FSU.
Alors, une cellule de veille, c'est un endroit, un cadre auquel peut faire appel une personne qui a été victime de violences sexistes et sexuelles dans le cadre militant et dont la personne mise en cause est un ou une militant ou militante de la fédération. À ma connaissance, le premier syndicat de la FSU à s'être doté, ou en tout cas à avoir parlé, de se doter d'une cellule, c'est le SNES, qui, en 2016, dans le cadre d'une instance nationale, a donc voté le fait que le SNES se dotait d'une telle cellule.
D'accord. Donc, je vais te demander d'expliciter un peu. Ça veut dire que si un militant et une militante a se plaindre d'un militant et une militante, ils peuvent faire appel à une cellule de veille interne au syndicat ou à la fédération. Si c'est quelqu'un qui n'est pas syndiqué, mais que la personne qui agresse est syndiquée, on peut aussi faire appel à cette cellule.
Oui.
D'accord. D'accord, c'est ça. En fait, ce qui délimite l'appel à la cellule, c'est l'agresseur, l'agresseuse et pas la
victime. C'est pas la victime.
D'accord. Est-ce qu'il y a des syndicats de la FSU qui n'ont pas de...
Oui. La plupart des syndicats de la FSU n'ont pas de cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles. C'est aussi pour ça. Et c'est pas la seule raison qui a poussé à la mise en place d'une cellule au niveau fédéral. Mais en tout cas, les petites structures, il est certainement plus difficile de pouvoir faire appel à une cellule quand on se connaît tous bien. Enfin, qu'il y a une difficulté à pouvoir déposer une parole qui met en cause un camarade proche, etc. Tout ça, on sait que c'est compliqué, ça demande aussi du temps, de l'engagement militant. Et donc, un certain nombre de syndicats, enfin la plupart des syndicats, à ma connaissance, de la fédération, n'ont pas mis en place cette cellule, mais peuvent tout à fait avoir recours à la cellule fédérale. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté qui peut être celle d'une victime à aller déposer une parole qui met en cause un militant connu ou reconnu ou en responsabilité dans le cadre de son propre syndicat peut aussi s'adresser à la cellule avec l'idée que elle pourra avoir affaire à des militants ou militantes qui sont moins proches du camarade mis en cause pour pouvoir sans doute avoir l'impression que sa parole sera peut-être entendue de manière plus facile, quoi.
Ouais, je vais rester sur cette question-là. Je reviendrai sur les syndicats de la FSU après. Tu pointes directement, parce que je pense que c'est une réalité, une difficulté des cellules de veille dans un milieu militant. Et dans un milieu militant, difficultés qui sont d'autant plus importantes quand le milieu militant est petit. Et qu'est-ce qui se passe si un membre de la cellule de veille est le conjoint du camarade qui est, ou la conjointe du camarade qui est accusé de ces violences sexistes et sexuelles? Est-ce que cette réflexion-là, elle a eu lieu?
Ce qu'on voit dans la pratique, c'est que comme on est 12 membres de la cellule, il y a seulement 2 personnes qui reçoivent les saisines qui se font la plupart du temps, en tout cas c'est la procédure, c'est d'adresser un courriel à la cellule. Donc il y a 2 personnes qui relèvent le courrier, et donc on sait qui envoie et de quel syndicat est la personne, quel est le syndicat mis en cause. Et comme on a de manière éthique, enfin la question de la confidentialité est posée. Les personnes qui vont traiter la situation, on fait en sorte que ce soit des personnes qui ne soient pas du même syndicat, qui ne soient pas des proches de la personne, et donc on se déporte en fait quand il y a, et le fait d'être 12, ça nous permet ça, parce que c'est des binômes qui traitent les situations. Donc on fait en sorte que les 2 camarades qui vont prendre contact avec la victime ne soient pas des proches de la personne mise en cause, ni même de la victime d'ailleurs.
Oui, d'accord. Je reviendrai à ça. Je vais tout de suite quand même finir sur la FSU. Tu m'as dit qu'il y avait des structures qui étaient trop petites. Est-ce qu'il y a quand même des syndicats qui aujourd'hui se dotent d'une cellule de veille alors qu'ils n'en avaient pas avant?
Oui, alors bon, le SNEP, par exemple, le syndicat dans lequel je milite, est en discussion et puis travaille à la mise en place d'une telle cellule. Après, la cellule, elle a aussi pour objet d'apporter son soutien au syndicat. Et donc, on a déjà été saisi plusieurs fois pour pouvoir apporter, alors sans qu'il y ait forcément de saisine de la cellule sur une situation d'agression, par exemple, mais en tout cas des syndicats qui ont fait appel à la cellule pour pouvoir venir faire des formations sur comment est-ce qu'on fait pour faire cesser, par exemple, les ambiances sexistes de travail ou voilà. Et donc ça permet donc des syndicats qui ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avant qu'il y ait des agressions, par exemple, ou des violences réellement, et qui donc par l'intervention de la cellule de veille sans doute pourront peut-être éviter la mise en place d'une cellule propre interne à leur syndicat ou d'avoir recours à la cellule pour traiter une situation qui peut-être aurait eu lieu si les militants n'avaient pas été formés ou moins formés.
Oui, les violences sexistes et sexuelles, ça commence pas au moment où on touche quelqu'un. Et je pense qu'on a fait quand même un grand chemin depuis le congrès de Marseille de la FSU, qui avait quand même quelque peu fait scandale avec des danseuses brésiliennes à moitié nues et une ambiance d'un sexisme extrêmement important. J'étais à ce congrès et j'ai le souvenir de quelque chose qui était en tant que femme, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, mais ça change rien, difficile à vivre. À cet égard, et pour finir sur la FSU, il y a eu un congrès tout à fait récemment. Ce congrès, il me semble qu'il a achevé la légitimation de la cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Est-ce que tu peux dire ce qui s'est passé?
Le congrès a permis d'inscrire un article 18 bis dans les statuts de la FSU qui dit que la FSU est dotée d'une cellule interne de veille et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors pour nous, c'était extrêmement important, mais comme pour beaucoup de monde, on l'a vu puisque la création, enfin le vote de cette modification statutaire a été voté à l'unanimité, moins une abstention. L'ensemble des congressistes et des militants et militantes qu'il et elle représentaient a pris conscience de l'importance que la FSU, qui a priori comme ça n'est pas exempte de violences sexistes et sexuelles, se dote d'un outil qui permette d'abord d'agir de manière légitime pour éviter d'éventuels recours, par exemple de mise en cause qui pourrait s'appuyer sur l'absence d'une reconnaissance formelle de l'existence d'une telle cellule, pour contester toute saisine ou les suites qui seraient données à celle-ci. Mais aussi, c'est un signal important que notre fédération prend en charge collectivement cette question qui est une question sociétale, hein, des violences systémiques qui sont faites aux femmes, et y compris dans les cadres militants. Et c'est aussi un signal fort donné au fait que, en tant qu'organisation syndicale, on défend aussi le fait que des militantes, alors je parle au féminin parce que c'est quand même dans la très 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 grande majorité des cas, des femmes qui subissent les violences, quoi. Nous n'avons été saisies jusqu'à présent que par des femmes. Voilà.
Donc,
c'est juste un constat, mais voilà, qui correspond à ce qu'on sait. Aussi de ce qui se passe en dehors de la FSU, enfin dans la société. Faire en sorte que les moments et les endroits où on milite en tant que femme soient des endroits et des moments safe, c'est quand même extrêmement important. Et en se dotant de cette modification statutaire et donc de cette cellule, la FSU envoie un signal fort aussi de sa préoccupation, qui est de permettre aux femmes de militer.
C'est intéressant ce que tu dis, bien sûr. Ça me conduit à d'autres. Alors, tu as évoqué le fait que vous étiez 12. Je voudrais savoir qui sont les 12 en termes de genre. Et je voudrais savoir d'où ils viennent, ces 12. Comment c'est organisé, comment c'est fait, en fait.
Alors, actuellement, donc 12, déjà la taille de 12, c'est un nombre qui nous a été donné au tout début par les formatrices auxquels on a pu avoir recours, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais à qui on a fait appel, qui nous disait que sur ces questions-là, et notamment dans le cadre des formations, Le fait de pas être trop nombreux, c'était important. Ça permet aussi ce chiffre-là, enfin ce nombre-là de 12, ça permet de se connaître bien et de pouvoir se faire confiance mutuellement. Et donc de pouvoir travailler avec des binômes différents, puisqu'on voit bien, enfin, selon les cas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément les mêmes binômes qui vont traiter la situation. Et donc il y a eu un appel de lancer au niveau des différents syndicats qui constituent la FSU et des tendances, puisque c'était important aussi que des tendances puissent être représentées, enfin des militants ou des militants de la tendance puissent participer à ce travail collectif. On avait acté le fait que on souhaitait que ce soit une majorité de femmes. Et donc, parmi les 12, il y a uniquement 2 hommes qui participent aux travaux. Donc ensuite, on a des camarades du SNES, on a des camarades du SNUIPP, du SNUAS, du SNICS, donc le syndicat des infirmières. Moi qui suis au SNEP, même si je représente l'école émancipée, il y a un camarade du SNEP, un camarade du SNUTER. C'est quand même assez varié, quoi.
Bon, pour traduire, SNUAS, c'est SNUAS FP, c'est les assistants et assistantes sociales, et SNUTER, c'est les personnels de la territoriale, et en particulier les agents dans les établissements, pas seulement, mais en particulier ça, et quant au SNASUB, c'est les administratifs. Le podcast Écoute émancipé n'étant, je l'espère, pas écouté seulement par des spécialistes de la FSU. Je pense que le SNEP, on l'avait dessiné avant, et le SNUPP, syndicat des professeurs du premier degré, pour parler rapidement. Alors c'est intéressant, tout ça c'est extrêmement intéressant. Tu as évoqué la question de la formation. Donc, vous avez eu une formation préalable et puis après, vous formez. Comment ça se passe, la formation ? Raconte.
On a eu, 8 jours de formation. C'est nous qui choisissons les formations et les sujets sur lesquels on souhaite être formés. Et donc, on a eu des formations. On a fait appel, par exemple, au collectif féministe contre le viol. Sur la question de l'accueil de la parole des victimes. On a eu 2 jours de formation. Donc à chaque fois, on essaye de faire 2 jours de formation. On a eu 2 jours de formation avec EGAE, donc une association qui au départ avait été créée par Caroline Dehas sur la problématique particulière de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, comment prévenir, comment détecter et comment réagir, avec la question notamment de la qualification, être capable de reconnaître dans les mots d'une victime qui est de l'ordre de l'agissement sexiste, de l'agression, etc. Et puis on a eu une formation avec une juriste d'un centre qui s'appelle Equality. Là, c'est pareil, c'était la question donc d'un point de vue juridique, ce qu'on peut faire pour se protéger aussi en tant que militant et militante de procédures qui pourraient nous mettre en difficulté et qui ne permettraient peut-être pas d'être dans un accompagnement optimal, par exemple, de la victime, parce que on ferait des choses que on n'aurait pas le droit de faire. Je le dis de manière un peu rapide, mais donc ça, c'était à chaque fois, donc sur ces 2 jours, donc on en est 8, je crois qu'il y a eu 8 jours en tout de formation. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et nos demandes, elles se précisent aussi en fonction des difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre du travail qu'on peut mener avec la cellule.
Ça veut dire que les 12 sont stables pour combien de temps ? Vous avez une idée ?
Je crois que ça n'a pas été décidé, enfin de manière formelle. Ce qu'on se disait, c'est que, en tout cas, on s'est engagé à être dans la cellule pour plus d'un an, par exemple. On en parlait l'autre jour parce qu'on a eu une réunion lundi, et on se disait aussi que s'il y avait de nouvelles personnes, parce que là, par exemple, on a un camarade qui part à la retraite, donc il faut remplacer, et on se disait que nous, on a déjà eu ces formations, donc faire un tuilage, c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire que, par exemple, de remplacer l'ensemble de la cellule par 12 nouvelles personnes, c'était vraiment très important qu'il y ait une continuité avec comme on travaille en binôme, il y a quand même toujours un échange de pratiques entre, comment dire, c'est jamais 2 nouvelles personnes ou 2 personnes qui n'ont jamais fait d'entretien qui travaillent ensemble. On essaye de veiller à ça aussi, de manière à pouvoir se former aussi au fur et à mesure des situations auxquelles on a affaire. Donc, ce qu'on se disait lundi, c'était que bon, on commence à se connaître aussi. La confiance dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment essentielle, elle est établie au sein du groupe. On est solidaires, parce que c'est pas toujours facile. Hein. La cellule, elle fait aussi peur, peut-être. Et donc, il y a quelques résistances qui se sont exprimées. Ce qu'on a pu percevoir, c'est que la solidarité qu'on a montrée au sein de la cellule, ça nous a permis aussi de traverser les moments un peu de turbulence, les remises en cause éventuelles de son existence, jusqu'à donc ce vote qui l'assoit. Et pour la défaire, maintenant, bon, il faudrait voter à 80% pour sa suppression, quoi. Donc ça c'est important aussi, c'est-à-dire que ça l'ancre dans le temps.
Je vais terminer par une dernière question, parce que je pense que tu as dit beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me dire l'ampleur des saisines, combien, alors je ne sais pas si c'est par année qu'il faut compter ou depuis que vous existez, enfin combien de saisines
J'estime à une dizaine de recours à la cellule depuis qu'on a démarré. Et là, actuellement, on est sur les derniers mois, là, sur les 5 derniers mois, il y a 4 situations en cours, en cours.
D'accord. Et là, les choses se savent comment ? Et ce sera vraiment ma toute dernière question. Il y a toujours des dernières questions après les dernières questions. Ma toute dernière question, les choses se savent comment dans la fédération ? Je parle de ceux qui font appel, je parle des victimes. Comment elles savent qu'elles peuvent faire appel à une cellule de veille ?
Alors, je pense que maintenant, l'existence de la cellule, elle a quand même été bien diffusée en interne, soit dans la revue pour, soit au moment du congrès, le fait de s'être prononcé sur le statut. Alors là, je parle des militants. Après, les adhérents, normalement, il y a du matériel, il y a des flyers, il y a des affiches, il y a une adresse mail, qui a été envoyée dans les sections départementales. Je pense que une adhérente ou même une personne étrangère à la FSU qui voudrait saisir la cellule en s'adressant à des militants de la section départementale de la FSU de son lieu de d'habitation, elle aura l'adresse pour pouvoir nous contacter.
D'accord, d'autant plus que la FSU n'est pas la seule et que l'existence de ce type de structure se connaît aussi bien dans les organisations politiques que dans les organisations syndicales.
Ça me fait penser à quelque chose, moi, quelque chose qui est important, je pense aussi, c'est que la solidarité, on a parlé là, la solidarité de la cellule interne à la FSU, mais il existe aussi, je crois que c'est bien que les gens le sachent, de manière tout à fait informelle, c'est-à-dire il n'y a pas de cadre formalisé, mais il y a des rencontres régulières entre les cellules de veille des différentes organisations syndicales et politiques au niveau national qui font aussi que on échange entre nous les bonnes pratiques, les difficultés auxquelles on peut être confrontés les unes ou les autres, quand on est à la CGT, quand on est à Solidaire, chez les écolos, mais ça nous permet aussi de lutter contre les militants migrants qui passent d'une organisation à une autre parce qu'ils ont eu ils ont été mis en cause dans une organisation, par exemple, quittent cette organisation ou sont exclus pour certains aussi de cette organisation et viennent militer dans un autre cadre. Ces relations inter-cellules, elles permettent aussi de pouvoir assurer le suivi de manière à ce que les militants connus ou reconnus ne puissent pas sévir ailleurs, quoi. Donc ça, c'est très important.
D'accord. Oui, je pense que c'est très important. Effectivement, je n'avais pas pensé à poser cette question-là parce que je n'étais tout simplement pas au courant et je pense que c'est extrêmement important. Bon, écoute, Valérie, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup de ton intervention et puis à bientôt.
Oui, à très bientôt.
Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'École émancipée dans sa revue et sur son site écoleémancipée.org.
Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast.
Écoute.
Écoute.
Émancipé.
Émancipé.
Le podcast de l'école émancipée.
Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés, avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org.
Spectre.